j'aimerais avoir une vue d'ensemble des différentes écoles de la tradition des forêts. Je crois que ça start with Ajahn Soh, Ajahn Moon.
Donc il n'y a pas de différentes écoles, donc tu as l'impression d'un commun, et Ajahn Chah, il a été voir Lompumon pendant 3 jours. Mais après, tous les autres disciples de Lompumon, ils sont vraiment assez en ligne direct avec ses enseignements. Donc c'est à peu près seulement la tradition d'Ajahn Chah qui semble un peu différente.
La tradition d'Ajahn Chah, elle est plus occidentalisée et plus tournée vers l'expansion. Dans la tradition de Mahabua, combien de temps Mahabua a passé avec Ajahn Moon?
9 ans.
Ok.
Et la plupart des enseignants, la plupart des Ajahns, disciples de Lompumon, ils ont passé plusieurs années. Lompuchop, Lompuka, Telpoli, Lompute. Ils ont passé plusieurs années avec Lompumon. Et ils ont à peu près tous la même manière d'organiser les choses. Donc, il y a le chant du matin, le chant du soir, réciter le Patimokkha avant le lever du soleil, voilà. L'organisation, c'est pour ça que quand tu changes de monastère et que ça reste dans la tradition de Lompumon, tu te sens à la maison. C'est tout organisé de la même manière.
Combien de disciples as-tu à voir, Mahabua?
Ah.
Too many.
Too many.
Why? Too many?
Donc, Lompumon, au moment de mourir, il a désigné que c'était Longta qui était son successeur. Donc, il disait aux gens, allez le voir parce que Longta, c'est vraiment mon successeur. Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement de gens qui sont venus qu'au fur et à mesure, ça a absorbé, ils ont sucé un peu l'énergie de Longta. C'est ça que Ajahn disait trop, parce qu'il suscite l'énergie. Et il n'y a pas que des moines qui sont venus, il y a aussi des laïcs. Et donc certains moines venaient pour quelques mois, certains ils sont restés des années avec Longta. Et ça, donc c'est surtout après la mort de Lompumon, où là il y a eu vraiment... Mais si tu veux connaître le nombre de vrais disciples de Longta, là c'est beaucoup plus petit.
Est-ce que Panavado faisait partie de cela?
Oui.
Il y a Sudilo, tout Ajahn Sudilo.
Donc Ajahn ne sait pas trop d'où il vient, et apparemment il enseigne la méthode Mahasi Sayado, et ça c'est vraiment pas habituel dans la tradition de la forêt.
C'est quoi la différence?
Donc ce que Ajahn en connaît, parce qu'il y a beaucoup de disciples qui venaient de cette tradition-là, c'est que Mahasi Sayado, ils mettent vraiment, eux, l'accent sur Vipassana, mais sur Vipassana, surtout sur les goûts mentaux, sur les goûts mentaux.
Et quoi, le corps,
et voilà. Et aussi ils accentuent beaucoup sur les 7 différentes étapes pour atteindre l'éveil. D'abord, tu passes par cette étape-là, puis par cette étape-là, puis par cette étape-là.
Oui.
Et donc, ce qu'a pu lire Ajahn sur tous les disciples occidentaux de Mahasi Sayado, c'est ils atteignent tous Nibbana, mais mentalement.
Et la tradition de Mahabua pure, elle est plus au niveau de quelle tradition? Parce qu'on était dans le Mahasi, c'est ça.
Le Bouddha. It's exactly the Buddhist tradition that the Lord Buddha at the time of his lifetime.
Donc Lompumon, il est en ligne directe avec les enseignements vraiment directs du Bouddha. Pourquoi? Parce que Lompumon, le fondateur, lui, il avait accès et il a vraiment vérifié tous les détails de la pratique. Dès qu'il avait des questions sur comment c'était pratiqué à l'époque du Bouddha, il avait accès à des arahants du temps du Bouddha qui répondaient à ses problématiques.
Ajahn Moon.
Lompumon, oui. Et donc, lui, Longta, il a été très fidèle à la pratique de Lompumon.
Longta, on parle de Mahabua.
Longta Mahabua, voilà. C'est des disciples de Lompumon. So, Dennis was asking, yeah, it seems that the tradition of the Lord Buddha is a forest tradition because the teaching was, but the tradition of Lompusao and Lompumon is quite recent in the history. It's like 100 years.
Yeah.
So, what was before, just in Thailand, that they didn't have a forest tradition before Lompusao and Lompumon?
No.
Donc non, il n'y avait pas de tradition de la forêt avant Lompumon et Lompusao. So he was asking, were there only bhikkhus in the cities or in the town?
Yeah, and in the villages.
Oui, ils étaient tous dans les villages.
Ce qu'on appelle la tradition des villes aujourd'hui, la tradition des forêts et la tradition des moines de villes. C'est comme ça qu'on les appelle. Comment on appelle les moines dans les villes?
En Thaïlande, ils s'appellent les Mahanikai.
Est-ce qu'il y a des pharaons dans les Mahanikai?
Are there pharaoh in the Mahanikaya tradition?
Yes.
Yes.
Even the Mahanikaya has, you know, I mean, you can probably call the Dhammakaya, you know, I'm part of the Mahanikaya, yeah. And there are lots of Western monks, you know, in the Dhammakaya group, yeah.
Donc, tu as ces trois traditions, Dhammayut, Mahanikaya, et what is the second one?
Dhammakaya.
Dhammakaya. Donc, Dhammayut, en fait, elle a été créée par le roi Mongkul 5. Et ça, c'était il y a 180 ans parce que la tradition Mahanika ne respectait pas assez le Vinaya. Et donc, le roi a voulu créer voilà, une nouvelle tradition qui serait très stricte sur le Vinaya. Et c'est de là qu'a été créé Dhammayuttha. Et après, donc pour un commentaire pour Ajahn, il disait Dhammayuttha, c'est très strict sur le Vinaya, Mahanika, c'est vraiment très relax sur le Vinaya, et le dernier, il est juste né il y a 30 ans, et c'est plus pour faire de l'argent. Voilà, c'est ça. Et après, pour ta question, est-ce que les Dhammayuttha sont seulement dans la forêt? Non. Dans les Dhammayuttha, il y a des monastères de forêt, et il y a aussi des monastères dans les villes. Et la tradition de la forêt, elle vient de Longpumun. Longpumun, il était Dhammayuttha. Mais avec Ajahn Chah était Mahanikai. Donc, ça veut dire que la tradition de la forêt, en fait, elle se retrouve dans ces deux filiales-là, dans ces deux écoles. La tradition de la forêt, c'est un regroupement de ces deux écoles-là, parce que Ajahn Chah était Mahanikai.
Comment on situe l'école des forêts birmanes, cambodgiennes, laotiennes, Sri Lanka?
Donc, Sri Lanka, Ajahn, il ne sait pas. Mais il dit potentiellement ils ont été inspirés par Longpumun et donc l'influence thaïlandaise sur la tradition de la forêt au Sri Lanka, ça peut être de ça. Mais pour ce qui est du Cambodge, Laos et Birmanie, cela, ça vient de moines itinérants qui étaient de la même époque que Longpumun, itinérants dans les forêts.
D'accord. Donc Ajahn Son, lui, c'est lui qui il n'a rien écrit.
Donc Longpusa, il parlait très peu. Il a rien écrit et il parlait très peu. Et s'il dit quelque chose, il dit bah, tiens, regarde ce chien-là, bah, il a plus de mérite que toi. Il a plus de.
Mais c'est de ce personnage-là que Ajahn Mun s'est inspiré.
Donc, Longpusao et Longpumun, ils ont été les premiers à partir enfin, dans la forêt parce qu'ils étaient dans un monastère où tous les moines seniors leur disaient bah non, Nibbana, on peut plus l'atteindre de nos jours. Et eux, ils voulaient pas, ils n'ont pas cru à cela. Du coup, ils sont partis.
Les deux.
Ils sont partis tous les deux en forêt. Et vu que Longpusao était senior par Longpumun l'a accepté comme. Et c'était son premier enseignant, Longpusao. Donc ils ont passé du temps ensemble, comme ça, mais jusqu'à un moment où, à un moment donné, Longpusao il a dit ah non, là je peux pas. Je peux t'enseigner, ta chita elle est trop aventurière. Donc ta chita je peux pas l'enseigner, il va falloir que tu trouves ton chemin tout seul. Et donc là, Longpumun a été tout seul.
Mais il a rencontré plusieurs moines qui étaient dans la ligne directe de l'enseignement du Bouddha, parce qu'il s'est inspiré par la suite.
Non, il a fait ça.
D'accord. Et c'est après que d'autres moines ont été le consulter et ça l'a donné très bien.
Et donc ils venaient, ces moines-là, après, ils sont venus vers Longpumun et vers Longpusa aussi. Et Longpusao et Longpumun, déjà, ils ont passé beaucoup d'années ensemble, et après, ils ont toujours gardé contact. Et donc, voilà, ces premières vagues de moines-là, ils allaient voir ces deux enseignants.
Très bien. Très bien.
Mais tous, maintenant, les moines qu'on connaît le plus, les plus connus, ils étaient tous des disciples de Longpumun.
Est-ce qu'il y a encore des moines errants de forêt?
Oui. Donc là où il y a encore des forêts, à Chiang Mai, les autres régions qu'il a citées.
Comment ils font pour se nourrir?
Juste comme faisaient à l'époque, ils vont juste au village.
Ils descendent au village avec le bol le matin, ils remontaient dans la forêt le soir.
Non, enfin c'est pas le soir, tu vois, ils vont dans le village le matin, ils récoltent la nourriture, voilà, ils mangent, ils lèvent le bol, et après ils retournent soit à leur endroit s'ils y restent, ou soit ils continuent, là, s'ils sont en train de vagabonder, ils continuent à la prochaine destination.
Très bien. C'est une tradition qui est très, très récente, mais en même temps qui a une lecture, une interprétation très fidèle des textes anciens. C'est ça qui est particulier, c'est qu'il y a comme un vide entre la vie de Bouddha, les textes de Pitaka, et on se retrouve en 1900 et on réallume cette flamme-là, mais en reprenant tout de suite. Mais il y a eu un blackout.
Il faut que tu comprennes quelque chose dans l'histoire de Longpusa et Longpumun, c'est qu'ils étaient tous les deux déjà à mi-chemin pour devenir Bouddha. Mais ils n'avaient pas fait encore assez de chemin pour vraiment être destinés à devenir des Bouddhas. Ils étaient à mi-chemin. Parce que si tu dépasses un certain seuil, après tu dois vraiment devenir un Bouddha.
L'intention, elle est tellement présente que de toute façon, ça se fait de soi.
Yeah. à partir du moment où tu rencontres ce premier Bouddha qui va te dire, ah oui, ben, une fois que tu as fait cette détermination, tu vas devenir Bouddha dans ce temps-là, à cette époque-là, tu auras tant de disciples, tu t'appelleras comme ça. Là, à ce moment-là, quand ce Bouddha-là te donne la prophétie, là, c'est bon, c'est, tu peux plus revenir en arrière. T'es vraiment sur le chemin pour devenir un Bouddha.
Ça prend l'approbation de Bouddha pour, ben, ça prend une confirmation de Bouddha pour dire tu vas l'air.
En fait, ça prend la confirmation de plusieurs Bouddhas. En fait, c'est pas vraiment une confirmation, mais c'est la personne arrive avec cette détermination-là et elle dit au Bouddha de cette époque-là, voilà, je veux devenir Bouddha, et c'est là qu'elle reçoit la prophétie. Mais ça, elle le fait devant beaucoup de Bouddhas. Je lui ai demandé combien il y avait d'arhants encore vivants. Il y avait à peu près. C'est dur à dire parce que les arhants qui sont encore vivants, ils disent ah, je suis arhant, souvent ils vivent dans les forêts, des fois c'est dur de savoir. Mais en tout cas, Longtumon, lui, il avait au moins 50 disciples qui étaient avant. Et pour Longta Mahabua, il en avait au moins 25. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Et ça, c'est assez énorme. Depuis l'époque du Bouddha, il n'y a pas eu autant comme ça sur une période. Et Ajahn disait que, à part la Thaïlande, puisque Jenny demandait pour les autres pays, moi, tu trouveras peut-être un ou deux arhantes en Birmanie, un ou deux, mais c'est la majorité que tu trouveras, c'est ici en Thaïlande.
Le monastère de Paok. Est-ce qu'on considère que c'est une école?
Non. I don't think there's any arahant there. They just believe they are arahant.
But that is... croient qu'ils sont arahant.
C'est une industrie, hein? C'est immense.
Yeah, it's an industry.
Et pour conclure, Ajahn disait, de toute façon, c'est pas si important que ça, savoir tant qu'il y en a, ça veut dire, et tant qu'il y a des êtres nobles encore présents, le chemin est ouvert, parce qu'au moment où il n'y aura plus d'arhantes, et puis au moment où après il n'y a plus d'êtres nobles, là, le chemin sera fermé. Parce que tous les arhantes pensaient la même chose.
Oui, c'est normal.
Parce que la vérité ne peut pas être différente, donc ils enseignent tous la même chose.
Ils risquent de rester plus forts avant de... Peut-être qu'il n'y aurait plus de forêt, donc il n'y aurait peut-être plus d'arhantes.
Ajahn, il dit au contraire, dans le futur, il va y avoir beaucoup de forêts, mais il n'y aura plus beaucoup de gens.
Ah, I hope.
No, not hope. It's true. Come.
Soon?
Not too far, not too far and not too near.
C'est pas si éloigné, c'est pas si proche.
Est-ce qu'on va connaître ça?
Oui.
Causé par?
L'avidité des gens.
Yes. Precision?
No, I don't say.
Précision, plus de précision, il dit pas. Si tu regardes la situation actuelle, la majorité des gens, non, ils sont vraiment, à très court terme, ils vont droit en enfer. C'est leur prochaine destination.
Donc, si on est pour connaître ça, le mieux à faire, c'est.
So what is the best to do, not to know this?
Bouddha.
Tu veux dire pour ne pas rencontrer cette situation ou pour s'en sortir?
Pour s'y préparer à y vivre.
What is the best way to prepare ourselves?
Bouddha.
Bouddha.
I know. In the forest?
Yeah.
Et ce que Ajahn dit, c'est que là, parmi les gens qui sont ici, lui, pour l'instant, il n'a pas vu quelqu'un qui pouvait vraiment pratiquer sur une longue période seul. Donc, dans tous les cas, tu as toujours besoin d'un enseignant pour ton travail.
Ah oui, sure. I know. It's not a problem. But for me, j'ai suffisamment de travail avec ce que j'ai appris dans les derniers jours pour aller dans ma forêt quelques mois, quelques années. Mm.
Ça dépend de toi. Ajahn, dans son enseignement, il ne met pas l'accent sur le Bouddha. Lui, il met l'accent sur trouver le chemin qui amène au cœur. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à atteindre ton cœur, où tu connais ton cœur, là, tu sauras faire les bonnes décisions. Mais tant que tu n'y es pas, au niveau du cœur, ben là, tu vas être perdu. Mais vu que le Bouddha, en le pratiquant, lui, il t'amène au cœur, mais au final, ça revient à la même chose. Mais... lui parle plus de cet enseignement qui amène au cœur, parce que pour les Occidentaux, ils ne comprennent pas tout ce qui se cache derrière le Bouddha.
Il La question que je te posais ce matin, c'est qu'on revient au Bido, c'est qu'en fait, c'est la prononciation, c'est la vibration de ce mot-là qui dégage les Kesela.
Et qui les a.
Et qui les a, et qui met en valeur la Chitta.
That's not the vibration of the Buddha.
C'est pas la vibration du mot Buddha. L'utilisation du Buddha, c'est pour remplacer chaque pensée qui vient des Kilesa. Okay. Pas seulement les pensées, aussi les souvenirs. Et aussi les sensations. Donc si à chaque fois tu ne plonges pas dans les pensées, les souvenirs ou les sensations, et que chaque fois tu remplaces ces choses-là par le Buddha, que ce soit des pensées ou des souvenirs ou des sensations, qu'à chaque fois que tu remplaces ça par Buddha, là, c'est le chemin direct pour aller au cœur. N'oublie pas ce que tu as dit ton cœur. C'est ton cœur qui t'a fait venir ici.
Mais je sais, moi, je ne sens rien quand je l'ai fait.
Mais tu le sentiras. Donc tu le sentiras, tu le verras, parce que plus ton esprit va devenir calme, et plus ça va être clair, plus ça va être brillant, et aussi, tu vas sentir que vraiment, l'attention, elle plonge dans le cœur. Donc tout ça, tu le verras, plus tu vas pratiquer, plus tu... Tu vas le savoir, ces choses-là. Et aussi, ce que conseille Ajahn, c'est que tu peux pratiquer la méditation sur la méta. Tu trouveras, ben je te donnerai, il y a une méditation guidée qui a été donnée par Ajahn pour partager la méta avec tous les êtres.
On commence par soi,
voilà.
Les autres, la famille.
En anglais et en français sur le site web, donc tu peux choisir.
Très bien. J'avais déjà vu passer ça.